Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maliba FM, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste de Spoutnik Afrique et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons sur les récentes évolutions dans le secteur des actifs basés sur la technologie blockchain. Nous nous intéresserons aussi bien à l'autorisation des actifs numériques en Russie qu'à l'envolée des crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Pour répondre, j'aurai l'honneur de recevoir Laurent Nicolas, spécialiste des crypto-monnaies et entrepreneur dans les technologies informatiques. A tout de suite sur Maliba FM. La sphère des actifs numériques et des crypto-monnaies connaît de rapides évolutions. La Russie, pour s'ouvrir de nouvelles opportunités financières dans le commerce international, vient d'autoriser l'utilisation des actifs numériques dans les règlements. Pour l'instant, il ne s'agit que des actifs numériques russes, mais ceux-ci pourront être garantis sur des actifs réels pour que les autres parties les acceptent à l'étranger. Sur le sujet des actifs numériques, Vladimir Poutine s'est exprimé lors du concours international des écoles et universités sur la sécurité financière.
On assiste à un développement rapide de solutions et de technologies avancées dans le secteur financier. Monnaie numérique, actifs financiers numériques, nouveaux services de paiement et modèles de règlement financier, y compris ceux qui utilisent la technologie blockchain, ce que l'on appelle le registre distribué. Je voudrais dire une fois de plus que dans ce domaine, en particulier lorsqu'il s'agit de coopération économique internationale, la confiance mutuelle et le respect des intérêts des partenaires et des uns et des autres sont extrêmement importants. Et s'il existe un tel fondement, une telle base, alors des approches technologiques modernes et même révolutionnaires permettent de créer un système de règlement financier vraiment unique. Et si nous regardons plus largement, une infrastructure innovante de coopération économique, commerciale, industrielle et scientifique à l'échelle mondiale. Et nous connaissons déjà les précédents d'une telle coopération. Par exemple, un exemple prometteur est le projet commun de plusieurs banques centrales d'Asie et du Moyen-Orient qui leur permet d'émettre et d'échanger leur propre monnaie numérique. En d'autres termes, aucun tiers n'a la possibilité d'abuser et d'interférer avec les paiements, y compris de bloquer, par exemple, une transaction, de bloquer des comptes ou de détourner l'argent et les actifs de quelqu'un d'autre. C'est malheureusement ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui.
Parallèlement, le Bitcoin a récemment battu son record de cotation à plus de 70 000 dollars l'unité. D'autres valeurs comme l'or atteignent aussi des sommets sur fond d'incertitude sur l'évolution de l'économie mondiale. Les crypto-monnaies sont particulièrement attrayantes car elles ne dépendent pas des banques centrales ou des gouvernements. Elles restent donc en théorie à l'abri des chocs macroéconomiques, à la différence des actifs numériques. La popularité de la technologie blockchain ne fait que s'accroître, y compris en Afrique. Malgré un système parfois difficile à comprendre, désormais des fonds d'investissement simplifient l'acquisition de crypto-monnaies. Aujourd'hui, même un agent économique n'y connaissant rien peut investir. Qu'est-ce que cet engouement pour la technologie blockchain apporte à l'économie mondiale et est-ce une tendance à long terme? Pour répondre à ces questions, je reçois Laurent Nicolas, spécialiste des crypto-monnaies et entrepreneur dans les technologies informatiques. Vladimir Poutine a récemment ratifié une loi autorisant les actifs numériques russes pour les transactions du pays à l'international. Qu'est-ce que les actifs numériques et qui peut en émettre ?
Alors, les actifs numériques, c'est quelque chose de très très large. Et derrière ces quelques mots se cachent des choses parfois très très différentes. Et donc là, en l'occurrence, concernant cette loi que Vladimir Poutine vient de ratifier, ça ne prend pas en compte, d'après les différents articles que j'ai pu lire, ça ne prend pas en compte les crypto-monnaies, c'est-à-dire les bitcoins, les Ethereum et tout ce genre de choses, ne font pas partie de cette loi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, du coup, cette loi fait référence à des actifs numériques qui sont ce qu'on appelle les CBDC, pour monnaie numérique de banque centrale, donc en français MNBC, j'imagine. Et donc du coup, bon, c'est un domaine qui est très anglophone, excusez-moi pour les anglicismes. Et donc du coup, ces CBDC ou MNBC, ce sont des choses qui sont émises par les États. Il faut voir ça comme quelque chose de très très différent de la crypto-monnaie. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Il y a une technologie sous-jacente en commun, mais c'est tout. Et donc, du coup, quels sont les avantages, pour revenir à la question de tout cela, non, qui peut en émettre et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouvelle forme de fintech. Donc, la fintech, c'est la technologie liée à la finance, la technologie sous-jacente à la finance. Et cette nouvelle technologie, eh bien, elle va dépoussiérer le vieux monde de la technologie bancaire qui est parfois très archaïque. Vous seriez surpris de la manière dont fonctionne un paiement international à l'heure actuelle. Ça va de banque en banque, parfois avec des intermédiaires, etc. C'est long, c'est cher, c'est coûteux. Et là, l'idée, c'est de faire quelque chose de moderne, d'efficace, de peu cher, qui va pour moi permettre de faire des transactions à la fois au sein du pays et aussi à l'international. Et donc, du coup, ce genre d'actif numérique de banque centrale, il est souvent émis par les banques centrales. Après, les pays en eux-mêmes, et notamment la Russie, peuvent confier cela à des banques, exactement comme la création monétaire classique. Elle n'est pas faite uniquement par la banque centrale, forcément, toujours et partout. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais grosso modo, qui peut en émettre, c'est soit le pays en lui-même, soit les acteurs choisis par ce pays pour l'aider dans cette mission.
Donc, quel est l'avantage d'utiliser des monnaies numériques dans un système financier mondial qui est dominé par l'Occident?
Encore une fois, ça dépend ce dont on veut parler par monnaie numérique. Là, l'avantage, c'est surtout un avantage technologique. Pour avoir un système qui finalement remplace le vieux système de manière plus efficace. Après, on pourrait imaginer combiner ce système-là avec les crypto-monnaies qu'on connaît, les crypto-monnaies de Monsieur Tout-le-Monde, donc Bitcoin et compagnie, et faire quelque chose qui serait, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Mais il est vrai qu'il y a une volonté globale de se dédollariser par la Chine. Il y a une redistribution des cartes géopolitiques et donc du coup, on a envie de se départir du dollar pour pouvoir commercer entre pays. Finalement, on a envie de se dire, bon, une transaction entre, le Cameroun et l'Inde, il n'y a pas de raison d'utiliser le dollar américain. Et c'est un pas en avant technologique qui permet de faire ça, effectivement.
Le Nigeria, qui a été le premier pays africain à émettre une monnaie numérique, a soutenu l'idée russe du règlement en monnaie numérique. Précisément, pour l'Afrique, quel est l'avantage de payer plutôt en monnaie numérique qu'en monnaie classique?
Bien, là encore, que ce soit pour le Nigeria ou d'autres pays, la situation monétaire est parfois très très compliquée. Accéder à un système monétaire plus stable pour ces pays-là, ça peut être un avantage massif. C'est une technologie qui est plus efficace et qui est meilleure que la technologie actuelle, mais elle offre aussi, je dirais, un encore plus grand contrôle par les gouvernements de ce qui se passe pour leurs ressortissants. Pour dire ça de manière plus claire et plus directe, ça peut complètement permettre à des États de contrôler qui fait quoi avec l'argent, de autoriser ou de ne pas autoriser certaines transactions, etc. Et pour certains pays dont la monnaie s'effondre, littéralement s'effondre, eh bien, le problème que ces pays ont, c'est qu'ils ne peuvent pas empêcher la fuite des capitaux.
La Russie a aussi soutenu l'idée de créer une monnaie numérique commune pour les pays des BRICS, donc là aussi basée sur la technologie de la blockchain. Quelles seraient les perspectives pour une monnaie commune des BRICS qui serait une monnaie numérique aussi bien pour les BRICS eux-mêmes que pour les autres pays du monde?
Alors, concernant ce sujet, on n'a pas exactement des informations sur ce qu'ils veulent faire précisément. Et donc, du coup, c'est difficile de répondre. Cependant, il y a eu très récemment, un entretien qui a été donné par Yuri Ushakov. Et dans sa transcription en anglais, parce que je ne parle pas suffisamment bien le russe pour l'avoir en langue originelle, dans sa transcription en anglais, il donne 5 caractéristiques à ce système. Et je dois dire que parmi ces 5 caractéristiques, au regard des cinq caractéristiques qu'il donne, à mon avis, il a tout compris du but que devrait atteindre un tel système. Si on veut avoir un système qui permet, dans un monde multipolaire, d'échanger de la valeur, alors les caractéristiques qu'il donne sont plutôt bonnes. Alors, ces cinq caractéristiques, c'est quelque chose qui est basé sur la technologie blockchain. Aujourd'hui, ça semble une évidence d'avoir quelque chose comme ça, qui serait pratique pour les gouvernements, qui serait aussi pratique pour les gens et les entreprises, qui serait pas cher à utiliser, ou du moins dans le prix serait raisonnable, et aussi, et c'est le plus important, qui serait neutre politiquement. Pourquoi neutre politiquement? Eh bien, parce que au sein du monde, il y a des conflits, et même au sein des BRICS, il y a des pays qui peuvent avoir des désaccords politiques. Et donc, du coup, si on veut que deux pays qui sont en désaccord politique puissent utiliser un système, il faudrait que ce système soit neutre. Or, si jamais le système est contrôlé par une personne en particulier, ou par un groupe de personnes, ou par un quorum de nations, par exemple, en particulier, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va dire, tout à coup, lui, on l'aime pas, il est pas beau, il a pas été gentil, hop, on le sort du système. Par exemple, on pourrait dire, la Corée du Nord, on n'aime pas le dirigeant, hop, on le sort du système. Très récemment, c'est ce qui s'est passé pour la Russie. On a dit, la décision d'aller faire une intervention spéciale en Ukraine, hop, on le sort du système. Donc, ça, c'est la caractéristique d'un réseau qui n'est pas neutre politiquement. Et effectivement, les Russes sont bien passés pour le savoir. Donc, si on veut fabriquer un système d'échange international pérenne sur le long terme, il faut absolument qu'il soit neutre politiquement. Un réseau neutre politiquement, pour l'instant, le seul qui a été créé, c'est Bitcoin. Il n'y a pas d'autres crypto-monnaies privées qui soient neutres politiquement complètement. Il n'y a pas d'autres réseaux qui existent. Et en créer un comme ça, à partir de rien, ça me semble complètement impossible. Des milliers de tentatives ont été entreprises pour atteindre cela. Et elles ont toutes échoué. Elles ont toutes échoué à être un réseau neutre politiquement meilleur que Bitcoin. Donc pour l'instant, le seul qui existe, c'est Bitcoin. Et ce qu'on peut faire, à mon avis, ce qui serait le plus intelligent, ce serait de faire un réseau qui serait un réseau, pourquoi pas, bancaire qui serait connecté à Bitcoin. On pourrait imaginer, par exemple, une bourse d'échange rouble Bitcoin, il en existe déjà de toute façon, et une bourse d'échange, je ne sais pas moi, par exemple Bitcoin franc CFA, il en existe déjà aussi, et de se dire, eh bien, si jamais quelqu'un voulait envoyer de l'argent entre, Yaoundé et Moscou, ou l'inverse, eh bien, il suffirait qu'il puisse, de manière un petit peu automatique, grâce à un système comme ça, qui serait une surcouche de Bitcoin, échanger ses francs CFA pour Bitcoin, puis ensuite envoyer les Bitcoins à Moscou, que ces Bitcoins soient transformés ensuite en roubles, et que le paiement soit effectué d'une manière un petit peu comme ça, transparente pour lui. Ça serait un réseau qui serait réellement neutre politiquement, qui serait effectivement rapide, pratique pour les gouvernements, pratique pour les entreprises, etc. Mais pour faire ça, il y a vraiment beaucoup de travail, et surtout, je ne peux pas être sûr que c'est ce que M. Youri Ushakov a en tête, parce que malheureusement, il ne donne pas beaucoup de détails. Mais à l'heure actuelle, je vois pas d'autre solution pour faire un réseau neutre politiquement. Et si c'est pour faire une sorte d'interconnexion, de CBDC entre les différents États, eh bien, on aura peut-être les quatre premiers objectifs que M. Ushakov décrit d'atteint, mais certainement pas le cinquième. Et pourtant, c'est le plus important.
Donc, comme vous l'avez dit, les actifs numériques se basent sur la technologie blockchain comme les crypto-monnaies. En fait, quelles sont les principales différences entre un actif numérique et une crypto-monnaie? Et pourquoi, à votre avis, la Russie ne veut pas encore utiliser les crypto-monnaies dans ses règlements avec les autres pays?
Alors ça, c'est, je dirais, le cœur nucléaire du problème. La question est beaucoup, beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît pour ça. Vraiment comprendre ça, il faut s'intéresser à qu'est-ce que la monnaie, en fait, d'une part, et les problématiques liées à la monnaie, l'incarnation concrète de la monnaie de nos jours. La monnaie, au cours des siècles, a pris différentes formes. Aujourd'hui, les monnaies sont émises par les banques centrales. Pour grossir le trait, les monnaies sont émises par les banques centrales aujourd'hui. Et on a un gros, gros problème, c'est que le système monétaire mondial est, en gros, dominé par le dollar, bien que la situation commence à se dégrader pour le dollar. Aujourd'hui, il a encore son hégémonie totale. La dédollarisation, on peut le dire, a commencé. On le voit dans le commerce extérieur chinois. Le dollar s'est effondré. Après, si on regarde à l'échelle mondiale, le dollar n'a pratiquement pas perdu son hégémonie en tant que système de réserve. Système. Elon Musk a d'ailleurs décrit ça, a donné une bonne image de ça et dit que c'est le système d'exploitation de la finance mondiale. En gros, pour faire tourner un ordinateur, vous avez, je sais pas quoi, par exemple, vous avez Windows et puis vous avez des logiciels qui tournent dessus. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, Firefox, Photoshop, peu importe. Bon, votre économie, le but, c'est de faire tourner ces petits logiciels parce qu'on en a besoin pour réaliser des tâches. Je sais pas, pour aller sur Internet, pour modifier une photo, bon, peu importe. Mais il se trouve que derrière, si vous n'avez pas le système d'exploitation pour faire tourner ces logiciels, vous ne pouvez pas les faire tourner. Et aujourd'hui, le système d'exploitation de l'économie mondiale, c'est le dollar américain. Et ça pose un grave problème parce que les Américains peuvent imprimer autant de dollars qu'ils le veulent à loisir. Il suffit qu'ils soient d'accord entre eux, il suffit qu'il y ait un consensus social ou alors un gouvernement qui le fasse malgré que le consensus social ne soit pas d'accord pour le faire et hop, on a des nouveaux dollars. Le problème, c'est que quand vous avez plus de quelque chose et que rien n'a été produit en face, eh bien la valeur de ce quelque chose diminue. C'est la loi de l'offre et la demande, c'est assez trivial. Si par exemple, une année, il y a, je ne sais pas moi, 100 tonnes de blé qui sont produites, et puis l'année d'après, il y a 200 tonnes de blé qui sont produites, et qu'on a toujours besoin du même nombre de baguettes chaque jour, mais si on a deux fois plus de blé, le blé vaudra moins. Et la monnaie, c'est la même chose. Plus il y a de monnaie, et moins cette monnaie vaut. C'est la raison pour laquelle... En 20 ans, on a vu le pouvoir d'achat de toutes les monnaies diminuer. Et là, ce phénomène s'est accéléré gravement. En quelques mois, la Banque centrale américaine a produit 25% des dollars en circulation. C'est-à-dire qu'il y a 25% des dollars qui ont été produits depuis le début du dollar, dans les 6 derniers mois, il me semble, quelque chose comme ça. Je vais vérifier les dates exactes, mais c'est à peu près ça. Et donc, du coup, ça veut dire que l'inflation va avoir des bons jours devant elle. Le cours des monnaies par rapport à des produits réels, par rapport à, je sais pas moi, une côte de bœuf, par rapport à une tonne de blé, par rapport à un litre de pétrole, va continuer de chuter gravement. Et c'est un avantage, par exemple, que Bitcoin a sur ses monnaies, c'est qu'on ne peut pas en créer à partir de rien. Il y aura en tout et pour tout 21 millions de Bitcoin à la fin, et il n'y en aura pas un de plus et pas un de moins. coup, la quantité est fixe. Et donc, du coup, on n'a pas ce problème-là. Et donc, imaginons maintenant qu'un pays se mette à utiliser les crypto-monnaies. Eh bien, si un pays voulait se mettre à utiliser les crypto-monnaies, il renoncerait à ce pouvoir régalien. Un pouvoir régalien, c'est-à-dire un pouvoir qui est de l'ordre du pouvoir d'un État. Dans la liste, on a pêle-mêle, comme ça, la justice, pouvoir rendre genre justice et mettre quelqu'un en prison si ça ne respecte pas la loi. Créer des lois, ce genre de choses. Donc, vraiment, le rôle de l'État, le rôle d'un État en particulier. Et parmi ceux-là, il y a le fait de battre monnaie, comme on dit. Et donc, du coup, utiliser les crypto-monnaies, c'est très dangereux pour un État parce qu'il peut perdre ce pouvoir régalien, puisque les gens vont, si on met en compétition les monnaies, choisir la meilleure monnaie. Et là, il se trouve que au cours des 15 dernières années, il y a 100% des monnaies fiat qui ont perdu, enfin des monnaies émises par des États qui ont perdu de la valeur par rapport au pouvoir d'achat concret, par rapport à la boîte d'œufs, par rapport à une côte de porc, par rapport à ce genre de choses. 100% des monnaies n'ont pas réussi à avoir leur fonction de réserve de valeur. Alors que les crypto-monnaies, elles, pas toutes évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses comme ça, mais les crypto-monnaies de bonne qualité, comme par exemple Bitcoin en particulier, le pouvoir d'achat, s'il y a 10 ans vous avez acheté du Bitcoin, le pouvoir d'achat a été conservé, du moins sur le long terme. Après, sur le court terme, il y a beaucoup de volatilité, mais à l'échelle de 5 ans, 10 ans, pour l'instant, ça a marché. Est-ce que ça marchera dans le futur? Ce n'est pas certain, mais pour l'instant, ça a marché. Et donc, du coup, si jamais les États prennent le risque de laisser leur population choisir entre le Bitcoin et la monnaie nationale, et que le Bitcoin est effectivement une meilleure monnaie, le gouvernement sera en compétition et perdra un petit peu son pouvoir régalien. Et ça, c'est dangereux pour l'État de perdre de pouvoir, mais il y a aussi un autre point qui est fondamental, c'est que si vous laissez votre population se jeter à corps perdu dans le Bitcoin sans en avoir les connaissances qui vont avec, votre population peut très bien être victime de la volatilité de ces crypto-monnaies. Donc, il y a à la fois un côté perte de pouvoir et à la fois un côté protection de la population face à la volatilité des crypto-monnaies. Alors, il y a un pays en particulier qui, lui, n'a pas eu cette peur, c'est le Salvador. Salvador qui était déjà 100% pieds et poings liés au dollar, a introduit dans sa loi une nouvelle monnaie légale, donc ils ont deux monnaies légales, le Bitcoin et je ne sais pas si c'est le dollar ou si c'est je crois que c'est le dollar. Donc, ils ont deux monnaies légales, le dollar et le Bitcoin, et advienne qu'il pourra que le meilleur gagne. Pour eux, de toute façon, ils avaient déjà échoué par rapport à leur monnaie locale, et donc, du coup, ils avaient rien à perdre par rapport à ça. Donc, ils l'ont fait. Et à mon avis, c'était une très bonne décision. Aujourd'hui, on voit ce pays certainement régler beaucoup, beaucoup de ses problèmes. Alors, pas forcément grâce au Bitcoin, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air beaucoup mieux géré avant l'arrivée de Monsieur Bukele. Donc, dans le cas de la Russie, c'est très délicat de la part du gouvernement et de la Banque centrale de se dire « Bon, allez hop, c'est parti, Bitcoin, on autorise, on regarde pas. » Imaginons que, entrepreneur qui n'est pas très au fait de tout cela, se disent « Bon, c'est parti, j'accepte qu'on me paye en Bitcoin. » Et puis, tout à coup, d'un mois à l'autre, il y a moins 20% sur le Bitcoin. Ça peut tout à fait arriver, même en quelques jours. Et que lui, par ailleurs, il doit payer un de ses fournisseurs et que sa marge, c'était, je ne sais pas, 10%. Bon, bah, tout à coup, il est vraiment, vraiment pas bien. Parce que, bah, il a vendu à perte du fait du risque de change. Le risque de change, ça peut être quelque chose de terrible. Le risque de change pour ceux qui font du commerce avec les autres pays, bon, bah, ils sont plus ou moins habitués, mais la volatilité n'est pas aussi extrême. Donc, je pense que utiliser ce genre de choses, c'est comme utiliser une voiture. Il faut une formation, généralement, dans tous les pays du monde. Il y a un permis de conduire. Hein. En France, il y a au moins 20 heures de formation obligatoire avant de conduire une voiture de manière sécurisée. Peut-être que pour utiliser le Bitcoin pour un entrepreneur, il faudrait imaginer une formation obligatoire. Je ne sais pas. En tout cas, il y a deux volets. La protection des individus et la perte de pouvoir par les gouvernements. Donc, du coup, je pense que ces deux choses font hésiter énormément les pays, notamment même, pourquoi pas, la Russie. J'ai déjà, dans mes connaissances, des gens qui sont entrepreneurs en Russie et qui ont accepté des paiements internationaux via le Bitcoin, malgré le fait qu'ils n'avaient pas vraiment le droit de le faire. Et bon, comme tout à coup, on a été débranché de SWIFT, ces gens-là n'ont pas eu le choix, et du coup, ils ont fait avec les moyens du bord. Donc, il faut que la législation avance pour que les gens sachent ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et avoir des solutions viables qui leur permettent de continuer d'exercer leurs activités en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, etc.
Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin a battu son record à plus de 72 000 dollars. Certains disent qu'au même titre que l'or, il est devenu une valeur refuge. Est-ce que son prix augmente à cause des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale?
Je pense que ça fait partie des raisons mais c'était vraiment pas du tout la seule raison. Seule raison fondamentale qui fait monter le prix du Bitcoin, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. L'offre, elle n'augmente pas. Il y a toujours le même nombre de Bitcoin qui est émis chaque jour. C'est environ 900 Bitcoin par jour qui est émis jusqu'à ce qu'on arrive à 21 millions. Et puis, tous les 4 ans, le nombre de Bitcoin émis est divisé par 2. Donc là, très très bientôt, on va passer de 900 Bitcoin à 450 Bitcoin émis. Et par contre, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par Bitcoin. Donc la demande, elle, augmente. Et donc ensuite, on constate une sorte de valeur fondamentale du Bitcoin augmente, puisqu'il y a de plus en plus de monde et qu'il y a le même nombre de Bitcoin à se partager. Mais aussi, il y a un phénomène de bulle qui se crée systématiquement, qu'on voit assez fréquemment, tous les 4 ans environ, et donc du coup, qui est peut-être lié à cette réduction d'émissions de jetons. Donc du coup, le Bitcoin fait toujours des hauts de plus en plus hauts à chaque cycle. Donc c'est pour ça qu'on a eu 20 000 dollars, puis après 60 et quelques mille dollars, puis là on est à 70 000 dollars, puis ça ira plus haut. Et on fait des bas de moins en moins bas. La dernière fois, on était tombé jusqu'à 3 000 dollars. Récemment, on était tombé vers 15 000 dollars. Vous voyez, ça fait une sorte de ping-pong dans quelque chose d'ascendant, et la valeur fondamentale de Bitcoin est quelque part dans ce canal. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, oui, il y a des phénomènes de bulles et il y a des phénomènes de crash, mais les crashent de moins en moins bas et les bulles montent de plus en plus haut.
C'était Laurent Nicolas, spécialiste des crypto-monnaies et entrepreneur dans les technologies informatiques. Avec son expertise, nous avons pu voir quels sont les enjeux actuels des crypto-monnaies et des actifs numériques, ce que leur développement implique pour l'économie mondiale. Ainsi s'achève cette édition de Marché en main de Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Maliba FM à Bamako. Nous nous retrouverons prochainement pour s'entretenir avec d'autres experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.